Le 10 août 1792. Il y a 77 ans, autour des Tuileries, les balles sifflaient, et en quelques heures, d'une poussée vigoureuse et d'un rude coup d'épaule, le peuple broyait un trône et renversait une monarchie de plusieurs siècles. Note. Nous laissons à ces fragments tout ce qui peut donner la date du temps où ils furent écrits. Leur ton indique bien qu'ils viennent d'une époque de lutte, la lutte contre l'Empire, et c'est ce qui explique leur caractère enflammé. 10 août 1792. Il y avait 3 ans déjà qu'on avait pris la Bastille. Il y avait 3 ans que, dans une nuit de superbe ivresse, les privilégiés avaient abandonné des privilèges qu'ils devaient essayer de reprendre plus tard. Il y avait 3 ans que le peuple s'était écrié « Je suis libre » et s'était cru libre. Il y avait 3 ans que la Révolution, disait-on, était faite. Et pourtant, la nation souffrait des mêmes maux et supportait les mêmes injustices. Le sang avait coulé au Champ de Mars et la loi martiale avait arboré son drapeau. Les patriotes étaient tombés fusillés à Nancy et les cœurs avaient bondi aux nouvelles de ces massacres. Devant la volonté populaire, le roi se tenait immobile, et quoi ? Mais tout bas appelait contre ses sujets l'ennemi que l'Autrichienne demandait tout haut. La cour trahissait, livrait l'assemblée. Les députés allaient briser leurs efforts contre le flegmatique veto royal. Et tandis que le peuple malheureux, que les petits bourgeois ruinés par les émigrés partis sans payer leurs dettes, souffrait et demandait du calme et de la liberté, le roi de France regardait du côté du Rhin si les armées du roi de Prusse et de l'empereur d'Autriche n'allaient pas bientôt venir. Depuis le mercredi 11 juillet, la patrie, la chère France, était déclarée en danger. Citoyens, la patrie est en danger. C'était les termes du décret même de l'Assemblée nationale. Ils se levaient, les patriotes, couraient à la frontière et, gais et chantant, sûrs de leurs droits et sûrs d'eux-mêmes, ils bravaient, combattants improvisés, guerriers volontaires, irréguliers de la victoire, les vieux soldats d'Allemagne et les grenadiers prussiens. Avec ces jeunes gens, enrôlés de la veille, marchaient les troupes régulières devenues patriotes. Une colonne d'émigrés, des voltigeurs de l'armée de Condé, se trouvant face à face avec ces anciens régiments de la royauté devenus les régiments de la nation, leur criait « Désertez, venez à nous ! À nous, brave régiment dauphin !» Et l'ex-régiment dauphin, la baïonnette en avant, courant au pas de charge sur les gens à cocarde blanche, leur répondait dans un seul cri « On y va !» Pendant ce temps, à Paris, on lisait tout haut dans les rues, dans les clubs, le manifeste insolent du duc de Brunswick, manifeste conservé aux archives et signé Brunswick. On se montrait les caricatures menaçantes confectionnées par les royalistes et qui représentaient les puissances étrangères faisant danser aux députés ou enragés et aux jacquins, jacobins, le même ballet que le sieur Nicolas faisait danser jadis à ses dindons. Le peuple sentait le rouge lui monter aux yeux à toutes ces insultes. Les sections s'agitaient menaçantes. Camille Desmoulins parlait tout haut de l'heure de la justice qui venait. 30 000 citoyens de la section des Gravilliers, la bouillante cuve révolutionnaire parisienne, tous ceux de la section Maraconsoeurs proclamaient la déchéance de Louis XVI. Et 46 sections après elle déclaraient que Louis XVI, Louis le Faux, n'était plus roi des Français. Le duel se préparait ainsi. Autour de lui, le roi groupait ses fidèles, ses chevaliers du poignard, ses grenadiers de fille Saint-Thomas et de Suisse. Il envoyait à ses gentilshommes des cartes bleues qui signifiaient « Venez ». Il comptait et recomptait le nombre des combattants dont il pouvait se disposer. Il croyait, il espérait en finir cette fois avec la révolution menaçante, Et ses aveugles courtisans lui montraient déjà Paris foudroyé, les patriotes fusillés, l'assemblée dissoute, et la monarchie promenant à travers les rues désertes sa victoire et ses vengeances. Le roi n'avait pourtant qu'à écouter la grande clameur parisienne pour savoir enfin ce que pensait le peuple. Un soir d'orage, le crépuscule venu, tandis que Louis et la reine rêvaient, songeaient, attendaient l'heure peut-être de commander le feu, pendant que les éclairs traversent le ciel noir et que pesait l'atmosphère lourde et pleine de soufre, un chant inconnu, superbe, effrayant, grandiose, avait éclaté dans la nuit. Le roi était demeuré étonné. La reine avait tressailli. Ce qu'ils entendaient là, ils ne l'avaient jamais entendu, jamais. C'était quelque chose d'inouï et d'irrésistible. Une immense menace, le cri puissant d'une nation poussée à bout, le coup de clairon d'un peuple qui s'arme, l'appel de la liberté, de la délivrance, le hennissement victorieux du coursier trop longtemps dompté qui se relève et secoue ses maîtres, c'était le grand refrain national, la grande chanson de la France victorieuse et libre, c'était la Marseillaise. La reine dit « D'où vient ce bruit ?» Ce n'était plus pour l'archiduchesse le soupir du clavecin entendu à travers les pins de Schönbrunn. Ce n'était plus les douze airs suisses du pauvre Jacques à Trianon. Ce n'était plus la romance de Rousseau, du devin de village, ou les hymnes royalistes de Grétry. C'était la marche militaire que chantaient en entrant à Paris les fédérés de la Marseillaise et qu'ils venaient lancer en leur faisant trembler les vitres du château sous les fenêtres des Tuileries. Et farouche, menaçant, indomptable, les Marseillais, que les spadassins du comte d'Anglemont avaient juré de tuer un à un à coups d'épée, chantaient la chanson nationale, la Marseillaise, dont les notes de cuivre allaient retentir aux oreilles de tous les despotes d'Europe, pour que le roi, le premier, l'entendît. Le roi appela un valet, fit un signe. Le valet ferma la fenêtre. Mais les Marseillais chantaient encore et le roi les entendait toujours. Paris était bien réellement divisé en deux camps. Aux Tuileries, le roi conspirait. Dans les rues, dans les clubs, la nation impatientée frémissait. Chose à noter, ce furent le pouvoir et ses séides qui commencèrent l'attaque. Les gardes du corps insultaient les députés, menaçaient les tribuns du peuple. Le peuple chargeait ses fusils, fourbissait ses piques et attendait. Dans la nuit du 9 août 1792, à minuit, le tocsin sonna. C'était le signal. Paris se soulevait en masse et marchait sur les Tuileries. Il y avait fête au faubourg. Au quartier général des Enfants Rouges, on était joyeux en respirant par avance l'odeur de la poudre. La rue de Lappe, le faubourg Saint-Antoine, le faubourg Saint-Marceau étaient illuminés. Aux municipalités, la foule était grande. Pâle mais souriant, les présidents des sections annonçaient au peuple que l'heure était venue de vaincre ou de mourir. La commune parisienne, instituée par l'insurrection, entrait à l'hôtel de ville et prenait en main la direction de la bataille. Note. Il ne faut pas la confondre avec cette commune de Paris, qui plus tard voulut la mort de la Gironde, et encore moins avec cette odieuse parodie de la commune, cette commune de 1871, qui a déshonoré jusqu'au nom d'autrefois fédéré, salut public, etc. La nuit était pleine d'étoiles, nuit d'août, pacifique et sereine. Des silhouettes s'agitaient dans l'ombre, lumineuses des rues. C'était un fédéré qui regagnait sa division, un sectionnaire qui se rendait à son poste, une femme qui portait de la charpie. Elle riait, se disait peut-être en écoutant le tocsin, que cette fois il semblait joyeux. Demain vendredi, jour de la Saint-Laurent, sera la vengeance de la Saint-Barthélemy. Sonne, tocsin de ma paroisse, comme avait sonné en août 1572 le tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois. Le jour venu, la grande masse populaire s'ébranla. De la Bastille, par le faubourg 80 divisions de sectionnaires descendaient vers l'hôtel de ville, et leurs baïonnettes oscillaient à l'aurore avec les remous d'un fleuve de fer. Les Marseillais marchaient à l'avant-garde, et entre les compagnies des gardes nationaux, les hommes du peuple, leurs piques à la main, suivaient en chantant. Au palais, on buvait, on attendait. L'insurrection victorieuse allait retrouver dans quelques heures les tessors des bouteilles que les Suisses vidaient en criant « À bas la nation et vive le roi !» Le roi songeait déjà à chercher un refuge à l'Assemblée nationale. Il comprenait, trop tard, que la loi seule maintenait le pouvoir, pouvait le protéger. À 8 heures, il quitte son palais, se réfugie avec la reine dans la loge du logographe, et tandis qu'à 100 pas de là, on s'égorge, il s'inquiète tristement de son estomac qui le tiraille, et regrette, le pauvre homme, non pas son trône, mais son garde-manger. Le peuple avait attaqué déjà le carrousel. Je me trompe. Non, le peuple, furieux, fiévreux, emporté, quittant les sections, les laissant assez loin sur les quais, s'était engagé en désordre dans les ruelles que formait alors le carrousel, pâté de maisons, cul-de-sac boueux, quartier de Paris, ventrique myrmiculaire, dont l'impasse du doyenné donnait encore une idée, il y a 30 ans. Les Suisses étaient postés dans ces masures, cachés dans ces replis, fusils chargés. Les gens du peuple s'avancent, on leur ouvre les grilles, ils passent, ils croient entrer dans ce palais des rois, tête haute et armes basses, pacifiquement. Ne sont-ils pas chez eux? Soudain la fusillade éclate. Les Suisses, à bout portant, font sauter les cervelles et les trous les poitrines. Accablés, égorgés, les hommes tombent. C'en est fait. L'avant-garde de l'insurrection est écrasée et les grenadiers suisses poussent gaiement un cri de victoire devant cette troupe dispersée. Et où sont-ils, les Parisiens? Patience, ils sont là-bas. Ils viennent. Ils viennent en bon ordre, en colonne serrée, et les fédérés de Marseille et de Bretagne marchent avec eux. Fournier, l'Américain, mène les Marseillais. Les Marseillais ont 2 canons. Feu, feu à mitraille, et le vieux palais des Médicis reçoit les premières balafres de la masse populaire. Feu, et les boulets parisiens, la grenaille, les clous ramassés dans les ruisseaux, la ferraille des revendeurs de la rue de Lappe répondent aux balles des grenadiers de la garde royale. Feu, et l'on n'a point de munitions, point de gargousses. Feu, et les cartouches manquent. Feu, et les gamins de 10 ans, les éternels et héroïques Gavroche, les gavroches du 10 août vont, sous la mousqueterie, ramasser de la poudre dans les gibernes des morts. Feu, feu. La fusillade croisée qui part du château ne fait pas reculer les assaillants d'une semelle. Ils tombent. Mais leur dernier cri est « En avant !» Et les survivants avancent. Tout à l'heure, corps à corps, ils combattront avec les Suisses, avec les gentilshommes déguisés. Leur torrent furieux va tout emporter. Ils ont atteint la grande entrée, ils s'engouffrent dans les Tuileries, ils frappent, ils trouent, ils tuent. On se bat partout, dans les escaliers, dans les galeries, dans la chapelle. On dispute, on conquiert le palais, marche par marche, dalle par dalle. Du sang partout, des blessés partout. Les Suisses, morts ou vivants, sautent par les fenêtres. Le palais entier, sous ce beau ciel bleu, a l'air en flammes. À travers la fumée, les uniformes rouges des pauvres fuyards appelle les balles. Les balles sifflent sous les marronniers dont les feuillages tombent et dont le tronc saigne. Sous les arbres, les Suisses effarés s'enfuient et meurent. Ils se sont groupés auprès du petit bassin, ils battent en retraite, massés vers le balin Saint-Octogone. À chaque pas, la petite troupe est moins compacte. Un homme tombe, la tête fracassée, un moribond râle, jette un dernier regard à ce ciel, à ces arbres et à tout ce qui est la vie, et songe, agonisant, au lac tranquille, aux montagnes vertes, au soir pacifique de son canton républicain. Le ranse des vaches revient à des oreilles qui n'entendront plus, et lui fait oublier la Marseillaise. Soldats mercenaires, pauvres paysans de Lucerne ou d'Unterwald, mais qu'es-tu venu faire ici? Tout à l'heure, divisés, sabrés, ils iront mourir bravement, froidement, au pont tournant, où lambesque sabrait hier le peuple, ou sur la grande place, non loin de cet endroit où le roi périra demain. Ça en était fait. Le peuple victorieux avait triomphé de la monarchie. L'Assemblée nationale était maîtresse des Tuileries. Santerre et Wenstermann, Danton de sa grande voix, pouvaient dire au peuple « Maintenant, tu es libre !» Sur les colonnes des Tuileries, sur les brèches faites par le canon des Marseillais, des patriotes traçaient à la craie des inscriptions comme s'ils avaient écrit « Ici l'on danse » sur les ruines de la Bastille. « Vive la Saint-Laurent » écrivait-il, « vive le peuple du 10 août !» On raconte que, pendant ce temps, un homme, un maigre et jaune jeune homme, en habit militaire râpé, l'œil brillant, les traits contractés, regardait en hochant la tête les Tuileries où personne ne devrait plus rentrer, et le peuple, ivre de joie, qui ne devait plus avoir de maître. Celui-là s'appelait Napoléon Bonaparte. « Est-ce bien là, se disait-il, le dégel de la nation ?» Oui, ces mots sont de lui. Et tournant le regard vers l'Assemblée, là-bas où Louis XVI, tandis que Vergniaud parlait de réunir une convention nationale, mangeait doucement son poulet rôti. « Piccolo, petit pauvre petit !» murmurait-il. « T'avais donc pas de cadeau pour balayer la multitude ?» L'homme de Brumaire, celui qui devait étouffer, escamoter une révolution et déformer le tempérament de la France, se dressait déjà devant le peuple du 10 août. Mais quoi? Le peuple était vainqueur, et quoi qu'ait pu faire depuis cette date les souverains, l'idée monarchique a été battue, bafouée, broyée, en cette journée du 10 août 1792. Nous datons de là. L'ère nouvelle s'ouvre au son du tocsin de Paris. Et le lendemain de ce grand jour lumineux et fier, c'est la Convention, la France armée, l'Europe repoussée, la Révolution victorieuse. C'est la tribune toute puissante, c'est l'impossible décrété réalisé. C'est le monde ébloui, c'est la parole de liberté, d'égalité, de fraternité traversant l'espace comme une bouffée d'air pur. C'est la souveraineté nationale, reconnue, imposée. C'est l'effarement du passé devant ce présent irrésistible, c'est la France. Enfin, notre pauvre et bien-aimée France, c'est la patrie sauvée, affranchie, délivrée, maîtresse d'elle-même et par sa grande idée de sacrifice et de dévouement, maîtresse aussi du monde. Vive la France! « Je ne veux pas oublier, » s'écria un jour Berryer, l'avocat de la légitimité. « Je n'oublierai jamais que la Convention a sauvé ma patrie. La Convention est la fille du 10 août. »